Aí sim. Prison à la Sable. Je tiens à dire que je lui dis cette conférence à tous les rigueurs. Notamment les rigueurs haïtiens, de ceux qui viennent d'arriver récemment. Je commence par vous dire que, d'après moi, il y a trois faits démographiques qui frappent dans l'opinion publique haïtienne pendant ces derniers temps. D'abord, des milliers d'Haïtiens stoppés à la frontière du Mexique et des États-Unis. Le deuxième fait, c'est la rentrée massive des Haïtiens dans certains pays de l'Amérique latine, au Brésil, tout particulièrement le Chili. Et ensuite, la traversée du centre de la frontière. Tous ces faits-là signifient qu'on est en présence de ce qu'on appelle en sociologie, en sciences sociales, le phénomène migratoire majeur. Dans notre débat là, le déplacement de population, les gens qui veulent s'installer et ailleurs. En réfléchissant sur le sujet, on va demander de l'écouter ici, si je veux, dans la réalité haïtienne, je me suis assigné pour tâche d'adopter un plan classique, à savoir essayer de déterminer les causes de ce phénomène migratoire. Ensuite, de placer ce phénomène dans ce contexte global, à l'intérieur de l'Haïti et à l'extérieur de l'Haïti. Dégager l'impact pour Haïti, qu'est-ce que ça va provoquer sur Haïti, et finalement, dégager quelques perspectives. Je commence par dire que dans l'histoire universelle, et l'histoire d'Haïti en particulier, on observe que l'émigration est le produit de circonstances exceptionnelles. De notre pays Haïti que nous appelons crise. C'est-à-dire des moments anormaux dans le fonctionnement de la société. Quelques exemples en Haïti. En 1915, on a eu l'occupation américaine. Ça a duré 19 ans. De 1915 à 1934, on a noté une grande vague d'immigration haïtienne. Ils sont allés pour ça. Ils sont allés dans les batailles dominicaines, dans les batailles cubaines, où il y avait des compagnies sucrières nord-américaines. Ils sont allés comme travailleurs immigrants. Je pense qu'en encourageant ces travailleurs haïtiens, les paysans, à laisser Haïti, et je pense que l'Oxfam a fait deux coups. Le premier, il a débarrassé le pays d'une partie de la classe paysanne, qui sont des rebelles potentiels, et sont susceptibles de résister à l'occupation, de dire non à l'occupation, ça débarrasse. Et de l'autre, c'est le coup économique. Ils augmentent la main d'œuvre à bon marché dans les compagnies, pour travailler dans les compagnies américaines. Et ça va faire casser le prix, ça va faire casser, n'est-ce pas, les salaires, notamment par les ouvriers cubains, par les ouvriers dominicains. Et même après le départ des Américains en 1954, la Belgique est restée, il y a beaucoup de pays haïtiens qui vont travailler dans. Comme coupeurs local, des travailleurs saisonniers, on les appelle Wayos, et en République dominicaine, et en Cuba. Et après l'occupation, après le 1954 à 1960, à l'école de la dictature de Trujillo, qui lui-même était impliqué directement dans le trafic de la canne à sucre, etc. Il avait besoin des travailleurs haïtiens, il en a fait chercher. Mais quand il y a eu la crise de 1930 aux États-Unis, qui a fait baisser le prix du sucre, il avait besoin de moins de bras. Sur ce territoire, racisme, cynisme, aidant, etc., il a fait porter les Haïtiens, il a causé les Haïtiens comme responsables de la crise sociale qui sévissait en République dominicaine, était incapable de reprendre la crise. Et nous savons ce que ça a donné lieu, ce fut l'assassinat de 15 000 Haïtiens en République dominicaine. Et malgré tout, les politiciens haïtiens, beaucoup de chefs d'État haïtiens, n'ont pas travaillé pour créer des conditions pour, en quelque sorte, faire baisser cette immigration sauvage. À partir de 1960, on enregistre une diversité de l'immigration. Et dans son premier temps, au début des années 60, particulièrement à partir de 64, quand Duvalier a établi la présidence de sa vie, il y a beaucoup d'électeurs haïtiens, beaucoup d'hommes politiques haïtiens, des gens préparés, des cadres, qui ont laissé le pays et qui ont émigré vers plusieurs endroits, l'Amérique du Nord, les États-Unis, le Canada, l'Afrique, etc. Et certains, ce matin encore, on a dit qu'il y a certains professeurs haïtiens qui ont travaillé quand même, qui ont eu le rapport, n'est-ce pas, de ce qu'on appelle la révolution tranquille, et ici, et au Canada, qui ont contribué dans le système éducatif canadien et québécois. À partir des années 1970, il y a eu ce qu'on appelle la hausse, des hausses successives du prix du pétrole, et ce qui a beaucoup affecté du point de vue non seulement conjoncturel, même du point de vue structurel, l'économie haïtienne, et l'augmentation du nombre des sans-travail. Et dans cette ambiance également, on a éliminé ce que l'on considère autrefois comme la banque du pays haïtien, c'est-à-dire les cochons, les créoles, les porcs. Donc ceci va entraîner le phénomène des bottes qui peuvent, il y a un nombre de petits gens qui montaient sur de fraises embarcations et qui ont essayé de faire leur chance et vers l'Amérique du Nord, particulièrement, n'est-ce pas, et en Floride, et avec l'idée, n'est-ce pas, disons, d'améliorer leurs conditions d'existence. Ça, c'est un fait sur lequel il faut insister. Tu vois bien, ce sont des gens qui s'aventurent sur la mer. Parce qu'on leur dit qu'arrivés en Amérique du Nord, ils vont trouver du travail. Hein, ce ne sont pas des lâches, ce sont des gens courageux. Ils savent périr en mer, dévoués par les requins. Hein? Mais ils ont endossé la responsabilité de s'aventurer en mer. Alors, tous ces faits-là, tous ces exemples-là que j'ai donnés, ce n'est pas pour manier une propre histoire, c'est pour nous signaler que dans le passé, l'émigration des Haïtiens s'expliquait par des facteurs politiques. Sous Duvalier, n'est-ce pas, le régime de répression politique, et ensuite par la mauvaise situation économique et sociale, parce que ce régime, n'est-ce pas, n'a pas généré des emplois, n'a pas généré, n'est-ce pas, du travail pour la population. Ça, c'est pour le passé. Mais qu'en est-il aujourd'hui? Qu'en est-il aujourd'hui? Et 30 ans après la chute de la dictature, après la chute de Duvalier. Et ceci nous conduit à essayer de voir avec vous les émigrés haïtiens actuels et leurs motivations. Qui sont les migrants d'aujourd'hui? C'est-à-dire ceux qui se déplacent d'Haïti. Du fait de la chute de la dictature, du fait de la vigilance des militants des droits de l'homme, de beaucoup d'acteurs de la société civile et du développement de, sinon de l'histoire, de la revendication de la démocratie, et du fait de la vigilance de beaucoup d'acteurs internationaux qui ont le regard fixé sur la situation en Haïti. Et on ne peut pas dire qu'à présent les gens se déplacent d'Haïti pour motif politique. Hein, il n'y a pas depuis quelque temps, il n'y a pas de persécution politique en tant que telle. Hein, vous n'avez pas de régime qui pratique le terrorisme d'État. Hein, il y a une conquête fondamentale qu'on a faite, la liberté. Et la parole, on en use, certains nous disent qu'on en abuse, hein? Mais oui, c'est une conquête, hein, qui est là. Donc les gens ne se laissent pas le pays, mais pour raison politique. Par contre, nous constatons qu'il y a des jeunes qui, après avoir terminé leur cycle d'études secondaires classiques, en Haïti, nous avons ça le baccalauréat, hein, et qui ne trouvent pas d'opportunité pour aller à l'université. Parce qu'il n'y a pas seulement de place au niveau des facultés d'État, il y a 11 facultés pour l'université d'État. Ça ne suffit pas, hein, pour recevoir la quantité d'écoliers qui sollicitent des places. Et ensuite, les conditions socio-économiques dégradantes, la population est en majorité pauvre, donc n'a pas les moyens, n'est-ce pas, de financer, de faire des sacrifices, mais de supporter réellement les frais d'éducation dans les universités. Alors il y a beaucoup de jeunes et qui laissent, particulièrement après le tremblement de terre, aujourd'hui, ces jeunes-là qui laissent. Hein, ce sont des jeunes qui, en 2010, lors du tremblement de terre, avaient 10 et 15 ans. Aujourd'hui, ils sont là à 20, 22 ans. D'accord? Et il y en a qui n'ont plus de parents parce que les parents sont morts. Hein? Donc, s'il y en a qui ont des parents qui ne travaillent pas. Donc, ils partent, hein, pour chercher des opportunités et apprendre pour faire l'apprentissage à des études universitaires. Et il y en a qui vont en Dominicaine. D'après un géographe haïtien très sérieux, je veux parler de Jean-Marie Géodat, qui a écrit récemment qu'en 2012, il y avait 15 000 étudiants haïtiens éparpillés dans plusieurs universités en tout le monde. Vous avez également des jeunes détenteurs de licences. Hein, qui ont étudié en Haïti ou bien qui ont été boursiers dans des universités étrangères et qui sont retournés avec leur maîtrise, hein, mais qui ne trouvent pas d'emploi dans le pays. Récemment, à l'occasion de la Journée internationale des sages-femmes, il y a la présidente de l'association, hein, qui a dit, à l'occasion un discours qui est public, de parole publique, et il a dit que sur 425 sages-femmes préparées par l'Université d'Haïti, il y a 60% qui sont à l'étranger. 60% qui sont à l'étranger. Alors, d'après elle, c'est parce que, bon, elle voyage parce qu'elle ne se voit pas embaucher par l'État. Elle ne trouve pas de débouchés dans les hôpitaux. Il y en a quand elle trouve à travailler, les conditions sont exécrables. Hein, elle ne peut pas exercer leur profession convenablement. Alors, tout ceci est pour dire que Haïti, petit pays, hein, pauvre, mais forme du personnel qualifié, mais qui partent pour l'étranger. D'accord? Donc on peut dire qu'on est là dans un phénomène de décapitalisation humaine. Hein? C'est-à-dire que parce qu'un homme éduqué, une femme éduquée, c'est le capital humain. Voilà ce qu'on perd. Alors, je veux dire, ce qui se passe dans les professions médicales, n'est-ce pas, c'est le même schéma, hein, qu'on a mis au niveau des agronomes, au niveau des ingénieurs, etc., et d'autres professionnels. Et quand ils partent, il y en a qui deviennent des déclassés sociaux. Récemment, il y a un reporter, il fallait une image que certains haïtiens doivent connaître, n'est-ce pas, au moins à travers la radio, qui à l'occasion d'une émission, qui nous dit qu'il a été récemment au Brésil. Et là, il est tombé sur un professeur haïtien, le professeur de belles lettres, qui enseignait la littérature en Brésil, dans son lycée, maintenant qui, pour des raisons économiques, parce que ce qu'il gagne ne suffit pas pour son existence, donc il a dû laisser pour aller au Brésil. Mais qu'est-ce qu'il fait au Brésil? Il est coupeur de gazon. Coupeur de gazon. Je ne pense pas que ce soit une chose avilissante, d'accord, parce qu'il gagne sa vie, mais quand même, c'est un gaspillage. Hein? Et pour devenir coupeur de gazon, n'est-ce pas, on n'a pas besoin, n'est-ce pas, de faire de grandes études, hein? De grandes études et tout au niveau universitaire. Donc, parmi les immigrés actuels, il y a également beaucoup de paysans, beaucoup de paysans qui vendent leurs parcelles de terre, hein, ou bien ce qu'ils possèdent comme vaches, comme animaux, hein, pour pouvoir se payer les frais de voyage, hein, qui s'élèvent, d'après ce que l'on dit, pour sortir d'Haïti pour aller au Chili jusqu'à 4000 dollars américains. Hein? Vu d'Haïti, je pense que c'est très élevé. Hein? Parce qu'on n'a pas, on a pas de grands moyens. Alors, quelle est exactement la motivation de ceux qui se déplacent, de ceux qui parlent, de ceux qui laissent le pays? D'accord? Vous voyez bien, ce n'est pas la première fois que les gens cessent ce pays. Hein, c'est un peu pour ne pas pour monter trop loin, j'ai commencé à partir de l'occupation américaine, bien avant, hein, depuis la construction du canal de Panama, etc. Il y a des Haïtiens qui se déplacent pour aller travailler ailleurs. Mais c'est la première fois qu'on a ce départ aussi massif et aussi rapide. Hein, des chiffres mis en circulation par les autorités de l'immigration au Chili indiquent que en 2016, il y avait 43 000 Haïtiens au Chili. En 2016. En 2017, on est déjà rendu à plus de 44 000. Alors vous voyez bien, n'est-ce pas, le rythme, le taux de croissance. Hein, le taux de croissance est très élevé. Comme vous le disiez au début, les Haïtiens ont été refoulés en Basse-Californie, à la frontière à la frontière mexico-américaine. Là, je ne vous apprends rien en vous disant que 60% des demandeurs d'asile, hein, au Canada sont des Haïtiens. D'accord? Donc, et on n'a pas de raison de croire que ça va diminuer. Alors, à ce niveau, il y a trois questions. Et trois questions que je vais poser. Et la première, c'est que pourquoi en ce moment il y a tant d'Haïtiens qui les sauvent. Deuxièmement, pourquoi ils choisissent d'aller au Chili? Et la troisième question, pourquoi tant de demandes d'asile au Canada? Ce sont trois questions qui sont liées. Je vais essayer, n'est-ce pas, de répondre. À la première question, je dirais qu'en plus des conditions socio-économiques précaires, difficiles, dégradantes, les Haïtiens n'ont pas de confiance dans l'avenir immédiat. Ils ne voient pas clair. D'accord? Ils sont totalement dans une confusion totale et ils ne voient pas qu'est-ce qui se fait aujourd'hui et qui les autorise à croire que demain sera le pire. D'accord? Donc, on se dit, si on a besoin de garantir une sorte de sécurité matérielle ou même relative, on doit laisser ce pays. Maintenant, pourquoi est-ce que les jeunes qui se déplacent massivement choisissent d'aller au Chili? Ma réponse, c'est parce qu'il y a une offre. Il y a une offre. Ce n'est pas que le gouvernement chilien fait de la publicité pour demander aux Haïtiens de venir. Mais à partir du moment où les Haïtiens savent qu'il n'y a pas de visa, il n'y a pas de visa, ils n'ont pas besoin de papier officiel délivré par une autorité chilienne, par un consul chilien, etc. Donc, il n'est pas possible. Pourquoi est-ce que le Chili, en ce moment, accepte-t-il de recevoir tous ces Haïtiens? Bon, là, c'est une hypothèse. C'est une hypothèse. Une hypothèse, je pense que le Chili est un pays émergent, a besoin de rester compétitif sur le marché international dans le cadre de la mondialisation. Il n'a pas de problème pour recevoir cette main-d'œuvre. Hein? Qualifiée en partie. De cette manière, elle peut conduire à bon marché. Hein? Je ne pense pas que ce soit de l'humanisme, que ce soit pas un monde, mais il y a donc l'intérêt économique. Et la troisième question, et d'après moi, les gens choisissent de laisser les États-Unis pour venir au Canada, parce qu'ils ont conscience que, et ils supposent que le Canada a une politique d'immigration beaucoup plus souple, que celle des États-Unis. Tu vois bien, on a l'impression que si M. Trump pouvait, il déroserait, contrairement à la tradition américaine, il aurait débarrassé le pays de tout ce qu'il y a comme migrants, n'est-ce pas? Ce n'est pas le cas, ni pour le Canada, ni pour la province du Québec, etc. En tout cas, de l'accueil réservé aux Haïtiens, et aux Haïtiens, n'est-ce pas, disons, et au Canada, n'est-ce pas, c'est une indication allant dans ce sens. C'est une souplesse et dont il faut. Alors, quel impact pourrait ce mouvement migratoire, quel impact pourrait Haïti n'est pas le seul pays à être dans cette situation. Je pense que ce qui se passe, c'est un exemple de la migration sud-nord. Sud-nord, c'est-à-dire des pays, des petits pays, et se développer, n'est-ce pas, disons, vers la grande puissance. En effet, pendant longtemps, nous savons que les pays du Sud, que ce soit les pays de l'Afrique, de l'Asie, de l'Amérique latine, qui laissent, les peuples qui laissent, les citoyens qui laissent, ils vont vers les États-Unis, vers le Canada, la France, l'Angleterre, la Belgique, la Suisse, etc. On fait des anciennes puissances. Aujourd'hui, le nombre des pays d'accueil augmente. Récemment, avant de laisser Haïti, j'ai lu sur les journaux, on a dit que pendant ces trois dernières années, le Canada, le Brésil, l'Argentine et le Chili ont reçu 85 000 Haïtiens. Donc, ça voulait dire que les États-Unis, le Canada, n'est-ce pas, ne sont pas les seuls maintenant à recevoir, n'est-ce pas, disons, et beaucoup de migrants. Bon. Alors, moi-même, l'impact pour Haïti, c'est sur Haïti, c'est la décapitalisation du même. C'est-à-dire que les cadres qui sont préparés par le pays, et s'il vous plaît, et au milieu du grand sacrifice fait par les parents et des classes moyennes, des basses classes moyennes en particulier, et les marchands blancs, les chauffeurs de taxi, etc. Et puis, après les études, toutes ces choses-là, ils auraient pu faire continuer la relève, constituer une nouvelle élite pour apporter le soin de pays. Voilà qui est. Donc, c'est le premier impact, n'est-ce pas? Et moi-même, il y a des notes négatives, c'est là. Décapitalisation. Maintenant, il faut dire également que dans les médias, il y a un effet. Il y a un effet que dans les conditions haïtiennes actuelles, nous n'avons pas une police nationale qui progresse, on n'a pas d'emploi, sur l'intérieur, etc. Donc, il y a le fait que les Haïtiens immigrés, les Haïtiens, les Haïtiens de la diaspora, les immigrés haïtiens, transfèrent de l'argent à leurs parents en Haïti pour les frais de nourriture, pour les frais de paiement de loyer, pour. Et payer le médecin, acheter les médicaments, etc. Et d'après les statistiques avancées, cette valeur Cette somme-là représente à peu près un quart du PIB. Hein? Et ce qui dépasse de loin l'aide publique internationale hein? Et accordée par la communauté internationale. Donc dans les médias, et je pense que c'est positif. Bon. Maintenant, ce n'est pas que, à long terme. Hein? L'impact est à long terme peut être positif parce qu'il y a quand même une différence au niveau technologique. Hein? Il y a des cadres qui viennent, hein? Qui font, il y a des jeunes qui viennent, qui font des études, et qu'il y en a parmi eux, et qui peuvent retourner quand cela se produit. Il y a des pays d'Afrique à présent, il y a des cadres qui ont étudié à l'extérieur, qui retournent chez eux. Maintenant, ils vont apporter. Ils vont retourner avec de la technologie, hein, de la technologie, n'est-ce pas, et une nouvelle méthode de travail, une nouvelle méthode de gestion. Et pour ça peut quand même aider quand même, n'est-ce pas, au décollage, hein, à amorcer comme un début, n'est-ce pas, de développement. Bon, je suis de ceux qui pensent que. Et avec le grand géographe que nous avons perdu, Jolin Glad, que les transferts constituent une soupape de garantie à la pauvreté. Hein? Dans les conditions où, sur le plan interne, il n'y a pas de progrès dans l'immédiat. D'accord? Je pense que sans ces transferts-là, la situation, n'est-ce pas, serait pire. En d'autres termes, je l'ai déjà signalé, beaucoup de familles vivent à partir des transferts. Maintenant, est-ce à dire pour autant que l'immigration est la solution pour le fait? Est-ce que pour résoudre ces problèmes, hein, Haïti doit œuvrer, n'est-ce pas, pour mettre chaque année au dehors une quantité de ses fils et filles pour aller travailler à l'extérieur? Moi, je pense que non. Je pense que non. Et la solution est ailleurs. Hein, on a jamais vu un pays se développer à partir de. Je pense que si. Les migrants peuvent aider, au pays d'origine, mais on n'a jamais vu un pays se développer à partir de sa migration. Moi, je pense que le développement doit être fait intérieur. La solution est en Haïti. Moyennant, hein, ce n'est pas un miracle, hein. Moyennant le choix. Et la réussite de projet national. Voilà, et ce qui signifie qu'on met en place un État moderne, c'est-à-dire démocratique, décentralisé, une économie tournée vers la satisfaction des besoins locaux. Tout en sachant tirer profit des opportunités offertes par le monde d'aujourd'hui, dans toute sa brutalité. Hein, ce qui signifie une nouvelle élite, incluant des progressistes des différents secteurs sociaux. J'insiste là-dessus, des progressistes des différents secteurs sociaux. D'accord. Je pense que dans toutes les couches de la société, il y a des éléments négatifs, mais il y a des progressistes, des couches populaires, des classes moyennes, des entrepreneurs nationaux. Et donc, il faut qu'il y ait une ambiance qui offre des chances, des opportunités égales et à tous et à tous. Et pour bâtir une société inclusive. Parce que le problème, hein, cette grande dégradation que l'on connaît, c'est que c'est une société qui repose sur une grande exclusion sociale. Hein, nous devons faire l'espoir, disons, on est. Et on accepte de plus en plus l'idée avec sociologue et suisse, M. Daniel Bourgeau, l'idée que la migration au mouvement migratoire est un ensemble de déplacements ayant pour effet de transférer la résidence des intéressés d'un certain lieu d'origine au lieu de départ, à un certain lieu de destination ou d'arrivée. Et si le migrant est une personne qui a transféré, qui accepte, bon que malgré, de transférer de sa résidence, au moins une fois pendant la période de référence, dans la Haïti d'aujourd'hui, la majeure partie de la population est candidate à la migration. Et parmi eux, surtout les jeunes. C'est très préoccupant. Donc, dire que jusqu'à présent, moi, je demanderais que je continue à donner des cours sur l'histoire de la Caraïbe à l'INAGUE. L'année dernière, j'ai eu ce choc. Je ne parle pas de cours, c'est un peu sur la colonisation. Et je lui ai parlé des esclaves temporaires, des esclaves gentiment engagés. Et puis il y a un étudiant, finissant ses doctorats. Il me dit, mais reprenez pour moi ce que vous avez dit sur l'engagement, sur les engagements. Il expliquait. Il expliquait, c'était des gens qui n'approuvaient pas, puis la traversée de la fatigue. Et qui ont aligné leur croisant. Et quelle a été la réaction de l'étudiant? On avait vu un étudiant finissant en sciences politiques. Il m'a dit, bien, si je trouve une opportunité de ce genre, je suis disposé à en profiter. Ça m'a choqué profondément. Ça a un moment commun dans des situations de désespérance. Je ne veux pas que. Bon, mais quand même, il y a une condition pour que ça pèse. Et aujourd'hui, ce qui se passe dans le pays, c'est de lever les jeunes, ce départ massif des jeunes de l'extérieur. Je pense que c'est la concrétisation, c'est la preuve que de mon pays, que de notre pays, en Haïti. La maladie est grave.
Pardon?
La maladie est très grave. Il y a une maladie sociale. Merci beaucoup.